Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur la radio mondiale RFI pour vous parler donc de football. Et aujourd'hui nous commencerons par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est sur les rives du Bosphore pour jouer contre le club de Başak Şehir est bien décidé à ramener 3 points. L'équipe de Thomas Tuchel va-t-elle assumer son rang de favori ce soir ? Dominique Sebrac.
Bonjour.
Bonjour. Alors ils vont les ramener ces 3 points ?
Sans doute.
Sans doute.
Ou alors, prenez des risques. Rien à comprendre.
Prenez des risques. Le Stade Rennais en Andalousie pour tenter de confirmer son premier match dans la compétition européenne. Mais le FC Séville est un habitué des joutes européennes, du moins celle de la Ligue Europa. Éric Mamrut est notre envoyé spécial. Une affiche prometteuse mais qui oppose deux clubs en délicatesse. La Juventus reçoit à Turin le FC Barcelone, les uns sans Cristiano Ronaldo, toujours positif au coronavirus, les autres sans leur président Josep Bartomeu, poussé hier à la démission par les socios. Enfin, le Real qui se redresse et évite le naufrage en Allemagne. Naufrage que l'OM n'a pu éviter sur sa pelouse du Vélodrome. Bonjour Salim Boumgali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là aujourd'hui dans Radio Foot, vous qui suivez ces soirées-là, loupe sur RMC Sport. Et puis Patrick Juillard est là aussi. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon, vous faites un non-stop sur RFI aujourd'hui.
J'ai rechargé les batteries avant, je suis prêt.
Voilà, vous serez là pour la soirée multiplex.
Il est confiné
à RFI.
Je veux bien être confiné quand vous voulez, RFI.
Bon, on va vous garder alors.
C'est vrai qu'on est bien ici.
C'est vrai.
On vous invite toujours et vous allez voir pour les 10 ans comme ça va être la fête de tous nos auditeurs qui nous remercient. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
De Başak Şehir, champion de Turquie, c'est officiel. 20e victoire de la saison pour cette équipe qui aura brillé tout au long de la saison. 63 buts inscrits pour la première fois de son histoire. Le club de Başak Şehir est champion de Turquie.
Başak Şehir qui découvre donc la Ligue des Champions, le Nirvana pour cette équipe plus portée par l'aura de son grand protecteur, le président Erdogan, que par ses supporters. Sans doute est-ce mieux en ces temps de tensions politiques, les tribunes resteront vides ce soir et on espère que la partie se jouera seulement sur le terrain sportif. Dans quel état d'esprit d'ailleurs se présentera le PSG face à son adversaire turc dans le petit stade Fatih Terim ? Être favori, un statut qu'il n'aime pas souvent assumer, comme au Parc des Princes, il y a tout juste une semaine en perdant contre Manchester United. Et ce soir donc, le PSG doit l'emporter, mais comment ? Thomas Tuchel a fait un choix fort.
J'ai réfléchi beaucoup, parce que j'aime beaucoup qu'est-ce que Marquis a fait pour nous au milieu. J'ai vraiment l'impression, et ça c'est mon avis honnêtement, qu'il est le plus important qu'il est au milieu pour nous parce qu'il peut aider tout le monde. J'ai expliqué et il va jouer au milieu pour nous aider de gagner cette match.
Marquinhos, le Brésilien au milieu donc, alors que Danilo, théoriquement le Portugais théoriquement spécialiste du poste, le fameux poste numéro 6 en défense sentinelle comme on dit, oui. C'est le choix de Thomas Tuchel. Est-ce déterminant pour donner, allez on va dire, de l'allant à son équipe qui en a tellement manqué face aux Mancuniens, Dominique Sebrac?
Non, on voit pas très bien en quoi pour un match contre Başak Şehir qui était encore 20e sur 21 avant la journée de championnat où ils ont largement gagné, on voit pas en quoi Marquinhos ou Danilo Pereira ou même à la limite Ander Herrera pourraient pas jouer en sentinelle, c'est-à-dire ce milieu devant la défense qui est chargé à la fois de d'endiguer les vagues adverses et de d'amorcer la première relance ou de casser des lignes par sa passe. Ça, il me semble que Danilo Pereira sait le faire. Il me semble qu'il est dans une équipe qui s'appelle le Portugal, qui joue avec le Portugal, une des encore meilleures sélections en Europe, on l'a vu récemment. Toutes les sélections ont des difficultés, pas vraiment le Portugal, qui défend très très bien notamment. Donc c'est incompréhensible, on voit pas très bien à quoi ce que cherche Thomas Tuchel. J'entends ici ou là qu'il cherche à se faire virer, bon, pas l'intérêt non plus.
C'est ce dernier année de contrat, on est
oui,
d'accord.
Mais alors je vois pas en quoi un entraîneur qui partirait sur un échec après être parti sur une mésentente avec Dortmund, en quoi ça lui améliorerait son CV.
Et le club d'avant aussi, avec
donc,
Mayence.
Ouais, donc je franchement, j'ai du mal à suivre, c'est quelqu'un que j'aime bien, et là, je suis un peu perdu.
Salim
Dominique l'a dit, à un moment donné, c'est Başakşehir en face, avec tout le respect qu'on se doit d'avoir pour toutes les équipes qui sont en Ligue des Champions, malgré tout, donc c'est quand même pas rien, et champion de Turquie en titre, ça reste quand même l'une des équipes, et l'équipe la plus faible de ce groupe, hein, quand vous avez United et quand vous avez Leipzig, à un moment donné, pardon, mais de se dire, attends, je vais peut-être mettre mon leader, parce qu'au final, Marquinhos, c'est un peu le leader.
Il le disait souvent la saison dernière, il le répétait toujours, j'aime voir Marquinhos à ce poste de sentinelle, je le trouve rassurant et tout ça, alors que c'est pas le poste théoriquement de Marquinhos,
bien sûr,
mais surtout qu'il n'a plus personne théoriquement en défense
c'est
centrale
ça, c'est ça en fait, parce que qui veut mettre Marquinhos au milieu, et au règle général on a plutôt eu un Marquinhos plutôt bon lorsque cela a été testé, donc à la limite pourquoi pas, mais lorsque vous réclamez un 6, puisque c'est au final ce qu'il a de manière sibylline expliqué ces dernières semaines, ces derniers mois, il voulait un 6, il voulait un Danilo potentiellement.
Ah, vous avez il voulait plutôt un défenseur.
Pardon, mais au milieu de terrain, enfin, il faisait comprendre qu'il y avait aussi des soucis dans cette zone de jeu, pas que défense centrale, j'ai l'impression.
Ouais,
en tout cas, dans tout ce secteur-là de la défense, j'entends pour protéger aussi.
Non, mais lui, il voulait Antonio Rudiger, l'allemand de Chelsea, c'est ce qu'il voulait. Voilà, parce qu'en fait, il voulait faire une charnière Rudiger Kimpembe en titulaire pour mettre son Marquinhos au milieu de terrain et avoir en doublure Kerrer et Diallo.
Et éviter un recrutement donc au milieu.
Et Leonardo,
le poste aurait été pourvu par Marquinhos.
Leonardo, lui, ça n'intéressait pas. Il dit, il y a 4 défenseurs centraux, donc 4, en général, on joue avec 2.
2 et 2.
Voilà, il y a 2 remplaçants, c'est à peu près comme ça dans tous les clubs depuis à peu près 157 ans. Donc, il s'est dit, bon, il y en a 4, dont 2 que tu as recruté, Kerrer et Diallo. Donc, ça te suffit. Et en revanche, je trouve qu'il manque de l'impact et de la puissance au milieu. Et donc, moi, j'ai la possibilité de faire Danilo Pereira. Voilà, c'était la logique de, j'explique la logique de Tourelle, j'explique la logique de Leonardo. Elles sont incompatibles.
Mais oui, apparemment.
Donc au final, encore une fois, que il veuille mettre Marquinhos, c'est-à-dire son leader, en tout cas, c'est celui qui dégage cet état d'esprit, Tourelle, en tout cas, l'exprime souvent, à la limite, pourquoi pas, dans le cœur du jeu. C'est ce qu'il avait dit, je crois, après le match de championnat. À la limite, pourquoi pas.
Il est le cœur et l'âme du Paris Saint-Germain.
Voilà, pourquoi pas. Mais qu'il veuille mettre un milieu de terrain, qui est milieu de terrain absolu, en sélection, Dominique l'a dit, il joue milieu de terrain, en club, à Porto, il joue au milieu de terrain, et tout d'un coup, on va le, en défense centrale, il va apporter quelque chose.
En Ligue des Champions.
Non. Alors même si c'est que Başakşehir, non.
Il fait 2 charnières en 2 matchs, donc il a joué avec Diallo contre Dijon, il va jouer avec Kimpembe ce soir. Donc pour les repères et pour son adaptation au club, c'est son 3e match. Troisième poste, 3e partenaire.
C'est pile le genre de choses. Imaginez, alors je ne souhaite pas au Paris Saint-Germain, je ne souhaite pas aux supporters. Oui, Başakşehir c'est fait, mais imaginons, imaginons que Başakşehir réussisse l'impensable, c'est-à-dire gagner ce soir. Là, on va se dire, entre les choix de Tourelle, on va dire, ah mais Danilo en fait, Danilo bof quoi, on va tout d'un coup certains
en tout cas vont mettre
ça, Marquinhos au milieu, ah ouais non, Marquinhos il peut jouer qu'en défense centre, enfin vous avez tout d'un coup tué certains joueurs entre guillemets.
Non mais
Patrick
moi, je pense que c'est simple,
finalement. Alors ça joue sur le terrain ou en dehors?
C'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte peut-être à mort, l'avenir le dira, entre Tourelle l'entraîneur et Leonardo le directeur sportif. Il y a une sorte de dialogue de sourds.
Une saison de Ligue des Champions, parce qu'attention, ils ont perdu
rien
leur
du
premier
tout,
match.
Honnêtement, je pense que Başakşehir, ils peuvent même mettre Michel Baker en défense centrale. Si le PSG joue un match digne de ce nom,
avec la ligne d'attaque
offensivement, avec les 4.
Ils ont les 4 fantastiques, comme on dit.
Enfin, il y en a 3 fantastiques, plus Moïse Keane, parce que le Icardi est pas là. Hein.
C'est vrai.
Mais Moïse Keane, je pense que contre Başakşehir, ça peut largement faire la maille. Et logiquement, le PSG n'aura même pas besoin d'être poussé de sa défense. Il ne sera pas, si on peut l'espérer.
Donc Patrick,
pour eux,
il a raison de tester ce soir.
Il a testé, moi, dans l'absolu, je lui dénie pas le droit de tester, mais je comprends pas tellement la logique. C'est-à-dire.
Il vaut mieux tester contre Dijon que.
La vérité, c'est que je pense qu'il essaye de faire payer à Leonardo le fait de ne pas avoir eu le renfort qu'il voulait en défense centrale. C'est tout.
Et il se sert des joueurs pour ça. Je trouve ça dangereux, moi.
C'est risqué.
Alors, en face, il y a cette équipe dont vous ne dites pas le plus grand bien, qui a perdu à Leipzig par 2-0, dont les joueurs sont assez peu connus. Alors il y a eu dans les rangs de cette équipe auparavant, on a vu passer Adebayor, il y a eu aussi Aurélien Tchédjou, même Robinho le Brésilien. Aujourd'hui il y a l'ancien Bordelais Enzo Crivelli et puis un certain Dembaba.
c'est Samuel Eto'o qui essaye de se retourner, qui frappe une petite frappe sèche, ça revient dans le pied, attention, c'est dévié, le but pour Chelsea, le but pour Chelsea sur un coup de billard, le but pour Chelsea à la 87e minute de jeu, c'est Dembaba qui vient marquer à bout portant, Christophe, ce but de la qualification peut-être pour Chelsea, scénario catastrophe pour le Paris Saint-Germain.
Alors ce scénario catastrophe,
j'étais.
Il y avait, vous étiez avec Olivier Pron et, oui. Et Christophe Jousset, c'était en avril 2014.
Toute la petite tribune de Chelsea où on voit quasiment pas, faut pas qu'il y ait des chandelles, hein. Bon, en général, il y en a pas trop dans le foot, mais au-delà de 10 mètres du sol, on voit plus le ballon. Et vous savez ce qui s'est passé 2 minutes avant ce but? Marquinhos s'est rentré, coaching de Laurent Blanc, et il l'a fait jouer sentinelle. C'était la première fois que Marquinhos jouait en sentinelle.
Donc il n'y a pas un oiseau de mauvais augure, il y en a deux ce soir.
Voilà, exactement.
Deux signes ce soir. C'était donc en quart de finale à Stamford Bridge et ça avait éliminé le Paris Saint-Germain.
Il a gagné 3-1 à l'aller.
À l'époque, exactement. Est-ce que c'est un mauvais signe pour ce soir alors, Dominique?
Ouais, je pense que j'ai beaucoup de respect pour Dembaba, mais il a quand même pris 6 ans lui aussi, comme nous tous.
Comme Marquinhos.
Non, je pense quand même qu'il est. Il y a une forme de déclassement. Başakşehir, c'est un club qui aime bien prendre des anciennes figures dans des grands clubs pour les soit finir leur carrière, soit avoir
comme
un dernier challenge.
En général, oui.
Donc voilà, vous avez cité Robinho, mais il y a eu Gaël Clichy, il y en a eu d'autres comme ça. Voilà, Dembaba, il faut surveiller, mais. Je pense que la charnière Danilo Kimpembe, elle a eu affaire à plus difficile.
Ce club, en plus, il a une moyenne d'âge très élevée. Hein. C'est 30 ans à peu près. Donc, effectivement, peut-être que face aux quatre fantastiques qui peuvent être dans l'absolu virevoltant, ça peut peut-être leur poser problème.
Ça peut poser problème. C'était sur la première journée des phases de poule, c'était l'équipe la plus âgée après l'Inter Milan. Donc c'est une équipe de joueurs expérimentés, alors ça c'est pas négligeable, mais peut-être en manque de rythme. Et c'est surtout une équipe qui a profité de l'affaiblissement sur les 3-4 dernières années des gros clubs historiques du championnat turc.
Galatasaray,
Fenerbahçe, Beşiktaş. Mais sur le plan du jeu, quand on regarde un peu la Super League le week-end, c'est pas une équipe éblouissante. En défense centrale, c'est relativement lent, donc il y aura des espaces, je pense. Et le PSG, dans un bon jour, même sans être extraordinaire, ne doit pas avoir de problème contre cette équipe.
Pour moi, c'est du niveau de Dijon et Paris a joué en marchand samedi. Ils ont mis 4-0 à Dijon en marchand.
Il y a un semblant d'expérience en plus, mais par contre, le club sera privé. Alors, c'est pas un des stades les plus chauds de Turquie, loin de là, mais là, il y aura personne.
Il
y aura 300 VIP, donc c'est pas ça qui va les pousser.
Sur un stade de 18 000,
On a parlé du contexte en plus géopolitique hier de cette rencontre.
Parce que c'est vraiment le club d'Erdogan, hein. C'est l'AKP, son parti qui l'a repris en 2014. C'est un nouveau quartier de sa nouvelle arrondissement
de sa famille
d'Istanbul.
Et dans les instances dirigeantes.
Juste pour rappeler, Başakşehir, c'est certes la première participation aux Champions, mais la saison dernière, ils étaient en Europa League et ils avaient quand même fait un plutôt beau parcours avec dans leur groupe Gladbach, la Roma dans la phase de poule et ils étaient pas c'est quand même devant ces équipes-là. Donc c'est une équipe qui certes est en dessous du PSG, ok, mais c'est une équipe qui petit à petit se construit son histoire européenne. La saison dernière, il y a eu tout de même un 16e d'Europa League. Donc c'est, quoi qu'il arrive, une progression déjà d'être en phase de poule de la Ligue des Champions.
Mais on ne peut pas imaginer que le dernier finaliste de Ligue des Champions, même dans un contexte particulier de
Final
8...
Nous nous sommes compris.
En plus, ils ont perdu contre Manchester il y a une semaine. Donc là, tout ce qui n'est pas une victoire ce soir commence à compliquer sérieusement la situation du Paris Saint-Germain.
Parce que là, c'est Başakşehir, c'est que du bonus. C'est que du bonus. En plus, ils sont dans un groupe pour la première participation. Ils affrontent United, le PSG et Leipzig. Demi-finaliste la compétition, puis United et PSG. Enfin, pour eux, c'est que du bonus. Oui. Ce ne sont que des gros à affronter et donc pour progresser encore une fois.
Mm-hmm. Pour eux, c'est plutôt pas mal. Alors espérons surtout que tout se passera bien sur la pelouse, mais aussi surtout en dehors. L'autre club français, le Stade Rennais, qui a bien commencé sa première aventure européenne avec ce match nul arraché la semaine dernière sur sa pelouse. C'était 1-1 face aux Russes Krasnodar. Là, les hommes de Julien Stéphan sont dans le sud de l'Espagne pour rencontrer le FC Séville. Les Rennais pourront-ils aller au moins glaner un point à Séville? Julien Stéphan fait les comptes des points possibles.
C'était fait la promesse avant le début de cette compétition de jouer de la première à la dernière seconde de chaque match. Voilà, toutes les rencontres avec une intensité maximum pour n'avoir aucun regret. Bon, on l'a fait contre Krasnodar. Malheureusement, on n'a pas réussi à à remporter la rencontre, mais dans l'investissement, dans l'intensité, ce qu'ont fait les joueurs, c'était très bien. Voilà, j'attends la même chose de demain, j'attendrai la même chose de la semaine prochaine à Chelsea, et puis encore pour les trois derniers matchs. On fera les comptes à la fin, on verra où ça nous mènera, mais voilà, il n'y a pas pour l'instant d'objectif chiffré très très précis sur les deux prochaines rencontres.
Julien, Stéphane, donc l'entraîneur de Rennes, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial du côté de l'Andalousie. Il s'agit d'Éric Mamrut.
Qu'est-ce qu'il voyage cet homme,
hein, n'est-ce clair. Pas
La semaine dernière, Éric, il était en Grèce. C'était Mamrutis.
Il a pris un abonnement. Hola Éric.
Ah
oui, en plus il parle toutes les langues.
C'est incroyable. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance.
Ça fait plein de ressources.
C'est quand même, il parle espagnol. Éric, avant d'aborder le côté sportif.
Espagnol que le grec, c'est sûr.
Dites-nous, Eric, dans quel contexte se déroule ce match? C'est-à-dire là-bas aussi, nous risque de nous tomber dessus un coup de massue ce soir. Est-ce qu'il est déjà tombé sur l'Andalousie et sur le stade de Séville?
C'est vrai que l'ambiance est vraiment très très particulière ici à Séville. Vous savez, c'est une des grandes villes européennes du tourisme. Habituellement, c'est noir de monde pour voir cette magnifique ville andalouse, baignée de soleil avec ses orangers, ses patios, la Giralda, la grande cathédrale où d'habitude grouillent tous les touristes du monde entier. Et là, tout à l'heure, cet après-midi, en allant y faire un petit tour, c'est quasiment vide. Il n'y a pas de touristes ou quasiment très peu, quelques Français à droite, à gauche, les habituels calèches qui les baladent, les Japonais, les Américains et tous, les oiseaux, les chevaux attendent désespérément des passagers, les conducteurs évidemment également. Beaucoup de boutiques sont fermées, pas mal de restaurants aussi. Alors, ça c'est dû au Covid évidemment. Vous savez qu'ici il y a un couvre-feu maintenant imposé à partir de 23h le soir jusqu'à 6h du matin. Un couvre-feu en vigueur depuis quelques jours seulement ici, mais c'est vrai que l'ambiance est triste, triste comme le sera sans doute l'ambiance, comme la sera sans doute l'ambiance ce soir au stade, évidemment un stade. Mythique pour beaucoup, ceux qui se souviennent notamment du France RFA de 1982, la Coupe du Monde.
Merci.
Le match de triste mémoire pour les supporters. Oui, pour moi aussi.
C'est vrai qu'on lui a rappelé PSG Chelsea, on lui a rappelé France RFA, il est bien, il est content de venir. Il est content.
Je suis content. Sympa.
Ouais.
Merci Maxime Bossis, quoi.
Mais moi, je suis content d'y aller pour voir pour la première fois, hein. Mais bon, même si évidemment ce sera pas la même chose, oui. Près de 40 ans après.
A priori, il n'y aura pas de congrès.
Bon, c'est vrai que ce contexte peut jouer. A priori, non. Et j'y reste non plus. Ni Batistan, heureusement pour lui.
Ouais.
Mais ça peut jouer, évidemment, un match à huis clos de Ligue des Champions à Séville, alors que d'habitude, la ferveur andalouse est connue. Ça peut être un petit avantage pour Rennes, évidemment.
Alors, Eric, justement, ces Rennais, pourront-ils aller au moins, pourront-ils glaner au moins ce soir un point, vu que la semaine dernière, ils ont réussi à en glaner un face à Krasnodar, mais en même temps, c'était peut-être pas suffisant. Ils sont sans Eduardo Camavinga et sans Steven Zonzi, c'est-à-dire quand même des gens importants dans cet effectif.
Effectivement, je crois que le match nul, ce serait vraiment le bon résultat à obtenir ici à Séville quand même. Vous en avez sans doute parlé, un des grands d'Europe quand même, malgré tout, spécialiste de la Ligue Europa, habitué aux joutes européennes. Le Stade Rennais, donc, c'est sa première en Ligue des Champions. Un Stade Rennais qui marche pas très bien en ce moment, après un très très bon début de saison. Là, il reste sur 4 matchs sans victoire, 3 nuls, 1 défaite, et même avec Nzonzi et Camavinga titulaires. Donc, est-ce que ça pourrait être mieux avec les Greniers et Martin ce soir, qui devraient les remplacer, pas forcément évident. Après, on vient d'écouter Julien Stéphane, l'état d'esprit, évidemment, il doit être à l'offensive, à ne pas jouer avec le frein à main, tout tenter, évidemment, ne pas avoir de regrets. Avec cet état d'esprit-là, pourquoi pas, effectivement, en face, Séville aussi et pas ébouriffant actuellement. Il reste aussi sur une série de 4 matchs sans victoire. L'attaque est en panne, 3 matchs sans but. C'est peut-être le bon moment pour, peut-être pas aller s'imposer, hein, mais au moins décrocher un petit quelque chose.
Ouais. Salim Boumgali, état d'esprit. Alors évidemment, esprit, es-tu là ? On en avait parlé pour l'état d'esprit du PSG la semaine dernière face à Manchester United. On va en parler, mais celui de Marseille hier a aussi laissé à désirer. On avait quand même l'impression que Rennes, à la limite, c'était justement sans regret, sans frein à main, comme dit Eric.
Oui, sans calcul de la part de ses Rennais, mais on l'a vu face à Krasnodar où il y a eu une large domination. Malgré le 1-1, Rennes, ce jour-là, a frappé 20 fois au but. C'est juste parce que Sofonov, le gardien de Krasnodar, avait été en mode araignée à tout arrêter, hein, pour le coup. Mais les Rennais ont été malheureux sur cette partie. Maintenant, aujourd'hui, vous arrivez face à une équipe de Séville. Alors certes, qui est moins intéressante, entre guillemets, en Ligue des Champions, qui fait moins de performances qu'en Europa League, forcément. Mais ça reste une équipe qui, à domicile, quand même, perd très peu de points en règle générale. Et j'insiste sur les absences de Kamavinga et Nzonzi, qui ont été si précieux sur la fin de saison dernière, sur le début de saison également, malgré les derniers résultats un peu moindres. Enfin, ne pas avoir ces deux cadres-là. Ce sont vos deux cadres de l'équipe de France, quand même, je le rappelle, en tout cas, qui jouent en équipe de France. Enfin, c'est là, on vous demande, après Krasnodar, qui est une équipe moindre quand même dans ce groupe, d'aller prendre ne serait-ce qu'un point à Séville. Ce serait un exploit retentissant si Rennes arrivait à le faire.
Kamavinga, précisons-le, blessé, enfin touché donc au cours des derniers matchs, et Nzonzi, par contre, suspendu.
Suspendu par l'UEFA pour un geste d'humeur. Il a shooté, il a donné un coup de pied dans une bouteille. On ne sait pas trop où elle a atterri, mais il a été suspendu. Ils l'ont appris hier.
Et précisément,
ce qui est quand même un peu limite en termes de délai pour se retourner.
Et le coup dans la bouteille a été donné juste avant son contrôle antidopage.
Ouais,
voilà. C'était donc dans les coursives du stade, et ça a apparemment
sorti des cases. Mais le milieu de terrain, ça peut être effectivement soit Clément Grenier et Jonas Martin, soit aussi on peut imaginer un duo Bourigeaud-Jonas Martin, parce que Bourigeaud est un joueur intéressant, bon relayeur et très bon sur les coups de pied arrêtés qui peuvent être une arme dans un match comme ça. Le FC Séville a un point commun avec Krasnodar, c'est que c'est plutôt une équipe qui brille en Europa League, qui a une expérience de la Ligue Europa, pardon, pas l'Europa League, et malgré tout, l'habitude des matchs à haute intensité, elle est nettement du côté espagnol. Mmh. Rennes n'a pas de repères. Rennes avait fait une bonne campagne il y a
de
deux
Ligue
saisons.
Oui.
Mmh. En s'imposant à Séville à l'époque, au Bétis.
Mais
il
n'y a pas encore une vraie habitude. Il n'y a pas encore. Et puis certains des joueurs de cette campagne ne sont plus là, ont été remplacés. Donc c'est un petit peu jeune. Et c'est dommage parce que contre Krasnodar, tout le monde a loué l'état d'esprit, l'engagement, le jeu sans complexe du stade Rennais, mais au final il y a seulement un point, alors que c'était peut-être ce match-là qu'il fallait gagner pour espérer et bien se lancer, quoi.
Dominique,
j'ai peur que ça aille un peu vite pour Rennes, et qu'ils soient un peu dépassés par les événements. On a vu ces dernières années des clubs comme Lille qui avaient déjà joué la Ligue des Champions. Voilà, c'est très difficile. À un moment donné, vous êtes face à un principe de réalité, c'est que vous n'avez pas forcément le niveau. Après, je pense que Rennes vise la troisième place du groupe et pour être versé en Ligue Europa, justement, en Ligue Europa. Mais comme l'a dit Patrick, ce nul les condamne presque déjà. Même pour la troisième place, c'est compliqué, quoi. Il aurait fallu se lancer, avoir le tremplin des 3 points pour aller un peu à Séville. Pas le cœur léger, mais un qui a plus détendu.
Quand on voit le nom de certains joueurs du côté FC Séville, quand même, c'est de sérieux joueurs, c'est des gros pédigrés européens. Non, mais je pensais à Navas, je pensais à Rakitic.
Lui, il est dangereux.
Bon, Ocampo, c'est un joueur en progrès, c'est vrai. Il y a De Jong en attaque, qui est un super finisseur. Donc, c'est solide, quoi. Ils n'ont plus Reguilón qui est parti, qui était un magnifique latéral gauche. Mais ça reste une grosse équipe. Ouais. Il y a aussi un très bon gardien de but marocain, Yacine Bounou, que les Espagnols appellent Bono, comme le chanteur de U2.
Il chante beaucoup moins bien. Quand même.
Non, il chante moins bien, mais il joue sans fausse note, par contre.
Alors que Bolo, des fois.
Merci beaucoup Eric Mamrud d'avoir été en direct avec nous. Alors on vous retrouve, ainsi que Patrick Juillard, à partir de 20h57 heure de Paris, 19h57 temps universel.
C'est ça, précise, tout à l'heure, buenas tardes.
Buenas tardes,
c'est
Eric.
C'est incroyable.
Tout à l'heure.
Hasta luego, eh.
Merci. Merci Eric. À tout à l'heure.
Le coup d'envoi de cette 60e finale. finale de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça. Neymar qui est resservi par Pedro. Neymar et 3. Le Barça est champion d'Europe avec ce but de Neymar. Ça fait 3-1 et pour la 5e fois de son histoire, le FC Barcelone est sacré champion d'Europe.
Et voilà, flashback, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on était en 2014. Cette fois, on est en 2015 avec cette dernière victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. Alors, on nous avait promis, on nous avait vendu des retrouvailles entre les deux géants encore debout du monde du football que sont le Turinois Cristiano Ronaldo et le Blaugrana Lionel Messi. Mais cette affiche a perdu de son attrait car CR7 manque à l'appel. D'ailleurs, sur cette confrontation, on se demande si on pense plutôt au foot ou à ce qui se passe autour du match. D'abord, on a CR7 toujours positif au coronavirus. Hier encore et jusqu'à 21h, il devait être déclaré négatif, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il ne joue pas, mais il se déchaîne, Cristiano. Il écrit sur Instagram un message que je vous lis parce que depuis, il l'a effacé, où il dit « Je me sens bien et en bonne santé. Allez la Juve !» Mais il ajoute, et je vous le dis juste en français, le PCR, c'est-à-dire le test contre... pour savoir s'il est positif ou négatif, c'est des conneries. PCR is bullshit. Alors, depuis, il l'a effacé. Ça fait tout un tintouin en Italie, me dit Matteo Cioffi, notre correspondant. Et puis, de l'autre côté, on a Lionel Messi, qui a eu la peau de son président Bartomeu, grâce aux socios, bien sûr. Et celui-ci a démissionné hier soir. Est-ce qu'on va regarder différemment ce match ce soir, Dominique Sévrac?
Non, on va quand même se concentrer sur le terrain, parce que ça reste une super affiche, Cristiano Ronaldo ou pas. Mais une fois que le résultat sera voilà, connu, on reviendra aux coulisses parce que forcément, ça va avoir des répercussions. Alors peut-être que la phrase ou l'énervement, l'agacement du portugais, bon, il faudra qu'on sache exactement qui vise parce que les tests PCR, ce qu'on sait, ils sont quand même assez fiables. Donc je ne sais pas exactement de quoi il parle. Est-ce que il parle des tests de l'UEFA, ce qu'il en veut à son club, bon ça. En revanche, Bartomeu, ça va avoir des répercussions jusqu'à la fin de la saison 2021.
Salim, ce qui est terrible, c'est que lors du tirage au sort, on s'est dit, ah, enfin, exactement, on va avoir un Messi face à Cristiano en phase de poule, puisque ce n'est jamais arrivé, hein, en phase de poule, faut-il le rappeler.
Oui, et là, on avait tellement l'habitude de les voir en Espagne que là, ça manquait.
Et quand ils s'affrontaient, c'était en quart, en demi, beaucoup plus tard. Et là, de ne pas voir Cristiano, quand même, ça perd un peu poil de sa superbe malgré tout, parce qu'on a envie de voir, c'est très bête, moi je voulais voir les deux équipes qui allaient non pas serrer la main, mais aller toucher leur coude ou caisse, et voir Cristiano et Messi ne serait-ce que sourire, parce que les deux sans doute se respectent et pas qu'un peu, et ben même ça, on va pas l'avoir cette image, on espère l'avoir au match retour.
Ce sera donc, peut-être dans les tribunes
puisqu'il est toujours positif officiellement. Et puis, quand on voit certains joueurs à la Juve, alors, même si ces joueurs sont en devenir, je pense à Kulusevski par exemple, qui est un brillant joueur et tout, ça reste certains joueurs qui sont un ton en dessous. Aujourd'hui, cette Juve est en reconstruction. Pirlo amène et veut créer quelque chose, un nouvel élan.
Pardon, que dire de Barcelone?
Mais c'est ça. Et de l'autre côté, vous avez un Barça qui est donc en grande difficulté. On l'a vu lors du Classico ce week-end. Donc déjà qu'en dehors, Cristiano, Bartomeu, plus sportivement, deux équipes moins, c'est une affiche qui me fait moyennement vibrer, alors qu'elle aurait dû me faire vibrer beaucoup plus.
Oh bah, t'es trop habitué au caviar. Hein.
Mais oui, l'Angleterre, elle a pour ça.
C'est surtout en phase de poule, des fois, il n'y a pas beaucoup de s'arranger.
C'est intéressant parce que ce sont deux clubs en crise de croissance pour des raisons un peu différentes. La Juve, qui a un club plus sain financièrement que le Barça aujourd'hui, mais qui avait recruté Cristiano Ronaldo dans l'espoir de franchir le petit cap qui l'a séparé d'une place de finaliste
à celle de
vainqueur potentiel. Ils n'y sont pas arrivés, que ce soit avec Allegri, que ce soit avec Sarri. Et maintenant, ils ont pris Pirlo pour faire une sorte de nouvelle donne. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le 3-5-2 que Pirlo a mis en place peine à trouver ses marques avec ou sans Cristiano. Donc ça, peut-être le match de ce soir sera une étape importante vers cette nouvelle Juve qu'on espère, enfin pour eux. Et le Barça, qui est un club en crise, bon, depuis le fameux match contre le Bayern
qui a
perdu le Classico chez lui et qui n'a plus de président et dont l'entraîneur qui a été choisi par ce président viré, donc, est d'autant plus fragilisé parce que son début de saison n'est pas très convaincant à la fois dans sa communication et dans le contenu des matchs. Donc, Moi, ça m'intéresse de voir ce que ça va donner. Après, ce sera peut-être pas un sommet du jeu.
Voilà,
on est d'accord.
Nous, on regardera. Il y aurait, paraît-il, Griezmann dans l'axe, poste qu'il revendique. Donc, voyons ce qu'il
va jouer. Ben voilà.
Alors, a priori, selon ce que nous disent nos confrères. Mais écoutons Andrea Pirlo, parce qu'Andrea Pirlo, c'est vrai que c'est le tout jeune entraîneur. Il étreigne ses galons. Et en plus, face à un adversaire ce soir qu'il saura très bien jauger, il s'appelle Lionel Messi.
Messi fa parte della storia del calcio mondiale moderno.
Messi fait partie de l'histoire du football moderne. Tout comme Ronaldo, il fait des choses incroyables depuis 15 ans et il est toujours au top malgré le temps qui passe. Je l'ai affronté à plusieurs reprises en tant que joueur, mais là ce sera une première en tant qu'entraîneur. Je l'accueille avec beaucoup de respect et j'espère seulement qu'il ne sera pas dans une de ces grandes soirées.
Sperando sempre che non siano nelle serate migliori.
Alors Dominique, avantage à Pirlo et ses hommes ou bien quand même cette équipe du Barça qui a besoin d'effacer peut-être la mauvaise impression du Classico va hausser son niveau?
Moi je l'ai dit avant que la Ligue des Champions commence, je ne change pas d'avis que parmi les plus grands brûlés, c'était le Barcelone qui est le plus en difficulté. Autant le Bayern fait toujours figure de favori pour se succéder à lui-même. Et pareil, la hiérarchie, elle est très floue. Ça peut très bien être une surprise, comme le Paris Saint-Germain en finale. Voilà, mais je mets pas du tout Barcelone parmi les cadeaux. Pour moi, c'est pas un club qui est mort, évidemment, mais c'est une équipe qui est morte depuis longtemps, malgré Messi. Je trouve qu'il y a rien.
C'est peut-être pour ça qu'il voulait partir, d'ailleurs, parce qu'il sent que ça coule.
Vous savez, dans deux mois, il remet ça. Hein, dans deux mois, il est libre. Pas de partir, choisir. Mais il est libre de choisir. Et donc forcément, un joueur de 34 ans qui est à 6 ballons d'or et qui est le meilleur joueur du monde, peut-être de tous les temps, qui est libre, forcément, il va y avoir quelques appétits qui s'aiguisent parce que ça coûtera rien du tout. Donc libre, c'est-à-dire ça coûtera rien du tout à part le salaire.
La donne, 52 millions d'euros cette année.
Si on se cotise, Annie, on y arrive.
Dominique, certes, que ça, vous avez tout à fait raison sur la situation actuelle au moment M.
C'est-à-dire
imaginons que maintenant que Bartomeu est plus là, Koeman va jouer sa tête souvent, beaucoup plus que quand Bartomeu était encore en poste.
Qu'il l'a choisi donc.
Voilà, parce qu'il n'a plus le président qui l'a choisi, n'est plus en poste.
Il n'a plus ce parrainage.
Et on sait que Xavi a une clause dans son contrat au Qatar lui permettant de quitter ce club pour le poste d'entraîneur du Barça. Si Xavi arrive en poste, Messi pourrait se dire, tiens, je vais rester. Renoncer à l'idée de partir.
Mais alors, certes, pour le match, ils n'ont pas pu recruter Memphis Depay et ils ont toujours dessus parce que ça sera moins cher en janvier. Et donc, ils ont beaucoup de problèmes.
Ils sont toujours dessus si Koeman reste. Mais je suis pas certain.
Qu'on mette Xavi ou qu'on mette même si Guardiola revient, s'il n'y a pas de finances, regarde les derniers recrutements. Ils ont fait revenir Coutinho.
Mais je pense que Xavi pourrait reconnecter le Barça à la Masia. Ça, c'est un des projets.
Vous voyez ce qui est assez affolant, Annie, avec tous les auditeurs, avec nos camarades autour de la table, c'est qu'on n'arrive pas à parler du terrain.
Voilà.
On reste en dehors, les transferts, les rumeurs, les départs, X va être viré. On n'arrive pas à se concentrer parce que, j'insiste, Cristiano Ronaldo n'est pas là. Si Cristiano était là, on aurait parlé à fond encore plus de Cristiano Messi, mais si Cristiano, il n'est pas là. Après, il y a Bartomeu et autres, évidemment, mais ça casse un truc.
Est-ce que Koeman, ce soir, alors, bride abattue, peut foncer avec ses idées, puisqu'il n'a plus Bartomeu et qu'il doit faire ses preuves?
Foncer avec ses idées, il ne doit pas se prendre 5-0 non plus à Turin ce soir, quand
il
même.
Valise, sur
un tel match. Après, oublions pas, j'insiste aussi sportivement, il y a beaucoup d'absents côté Juve. Défensivement, Pirlo a des choix à faire et des absents surtout. Donc, on va avoir des équipes qui sont en chantier. Donc, oui, je suis comme Patrick, évidemment, très curieux de voir ça parce qu'on a envie de voir cette Juve face à Barça, face à Messi. Mais je dis pas que cette affiche va me faire vibrer comme en 2015 quand on écoutait il y a quelques instants les propos lors de la finale de la compétition.
Est-ce que la Juve peut faire mieux contre le Barça qu'elle n'a fait contre Crotone un partout et le Hellas Vérone un partout, ce qui sont quand même des résultats assez inquiétants, même pour une équipe en rodage. Normalement, la Juve a assez de marge pour battre ces équipes-là, et ben non.
Évidemment. Ça nous ramène à un débat qu'on a eu il y a une dizaine de jours dans Radio Foot, et je me souviens avec Habib Bey, avec Sheriff Guémour et Franck Simon, on disait de toute façon, l'année sera atypique complètement. Et on le voit chaque soir, et justement, on va aller vers certains résultats qu'il y a eu hier soir en Ligue des Champions.
Qui sont logiques.
Attention à De Bruyne, il avait cherché Ferran Torres, bien défendu, mal défendu, attention, ouh, le but ! Ouverture du score donc à la 18e, Ferran Torres.
Phil Foden, le bon centre pour la reprise et le but de Gundogan. Et ça fait 2-0 pour Manchester City. Riyad Mahrez pour Kevin De Bruyne et le but de Sterling. Oh, qu'il est beau ce but. 3-0 pour Manchester City à 9 minutes de la fin du match.
Bon, Christophe Jousset, il a essayé de mettre de la vie hein, dans ce stade qui en manquait énormément, n'est-ce pas? Mais pour saluer 3 buts de City. L'Olympique Marseille a sombré dans son vélodrome. Un OM rentré au vestiaire en ayant donc encaissé 3 buts seulement, on va dire. Parce que les Citizens, finalement, Salim, reconnaissons-le, ils n'ont pas été extraordinaires. Ils ont été bien meilleurs en fin de match qu'en début, mais bon, c'était pas...
Vous savez, depuis hier, j'entends, mais quand même, Marseille a pas été bon, mais est tombé face à un City qui n'était pas génial. Oui, enfin, City avait pas besoin d'être génial.
C'est normal, entre
guillemets. Oui, non, mais c'est ça. City a joué à 50%, 60%. Ils ont d'autres échéances, notamment le championnat. Des matchs qui s'enchaînent tous les trois jours, comme pour toutes les équipes. Si on peut se permettre de jouer avec 50% de nos capacités ou 60% de capacités en gagnant 3-0 sans concéder de but, mais c'est un bonus parfait pour cette équipe de City. En face, il y avait une équipe qui permettait de faire un match d'entraînement. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait.
Et oui, et c'est une deuxième défaite européenne pour les Phocéens. Alors, des regrets, il y en a, notamment de Michael Cuisance, tout jeune Phocéen et milieu de terrain.
On doit faire plus, on doit plus être ensemble. Il faut une meilleure cohésion de groupe pour pouvoir gagner ce genre de match. Et je pense que c'est ce qui nous manquait. Il faut faire un gros effort dessus. Dans la vie, les sports font vivre. Après, on va bosser pour rendre fier le peuple marseillais, pour ramener des points à la maison, et on va tout donner sur le terrain pour espérer quelque chose.
Messieurs, je vais vous demander à qui la faute finalement. Est-ce que c'est à l'entraîneur, à ses choix tactiques d'hier soir, ou alors est-ce que c'est les joueurs, parce qu'on a eu l'impression, je ne sais pas vous, Patrick Juin, mais qu'ils étaient complètement paralysés face à Manchester City, surtout en début de match, quoi, les 15 premières minutes.
Je mettrais avant tout la faute aux joueurs parce que Villas-Boas sur ce match a au moins tenté un coup tactique. C'est un entraîneur qui est un adepte pratiquement indéboulonnable du 4-3-3. Et hier soir, il a tenté une sorte de schéma avec deux lignes de 5. Enfin, bon, on a appelé ça un 5-3-2, c'était un 5-5-0. Mais il y avait une volonté vraiment de quadriller au maximum le terrain avec deux lignes très serrées pour priver d'espace et de possibilité City. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est le manque d'intensité qu'ont mis les joueurs. Les approximations et les erreurs techniques, on le voit avec cette relance abracadabrantes de Rongier, qui a des possibilités de relancer vers l'avant, au pire de balancer, même en perdant le ballon, mais d'envoyer le ballon loin,
très loin.
Met une passe en retrait mal assurée n'importe comment, donc des erreurs de débutants, et puis surtout, l'OM savait qu'elle aurait peu le ballon. Dans un match où on sait qu'on aura peu le ballon, on essaye de l'utiliser au mieux et de jouer les coups à fond. Ça n'a pas été fait. Et Cuisance, qu'on a entendu, malheureusement, alors c'est un très jeune joueur, il n'a pas beaucoup d'expérience.
Oui, 21 ans. Hein.
Voilà. Quand il était au Bayern, il ne jouait pas, en général, les gros matchs.
Ça, c'est un jeune.
Mais lui-même, il était un peu le dépositaire du jeu. Il n'a pas été à la hauteur, comme la plupart des autres, à part Bouba Camara au milieu qui a tenté de colmater un peu les brèches. La plupart des joueurs n'étaient pas dans le coup.
Juste, je me permets dans cette émission spéciale Ligue des Champions de parler de West Ham un instant. Je vois le rapport, moi d'ailleurs. Ce week-end, il y a eu West Ham Manchester City avec le match nul.
Ils ont eu beaucoup plus de mal ce week-end qu'hier soir.
Mais c'est ça. Le truc, c'est que Arthur Masuaku, qu'on a reçu en interview juste après la rencontre, expliquait très simplement qu'il y avait des bases qui avaient été faites. Alors, les fameux propos, ça paraît facile de dire, oui, on fait deux lignes, une ligne de 5, une ligne de 4 avec l'attaquant devant. Mais il y avait une demande de concentration absolue qui était demandé par Moyes avec des mots clairs, avec une volonté claire de défendre bas et de partir très vite. Alors ça paraît bêta et on n'était pas dans les vestiaires de West Ham ou de Marseille évidemment. Mais West Ham a réussi ça, cette concentration, ces lignes extrêmement serrées et surtout cette concentration. Il y a eu très peu d'occasions pour City, seulement en seconde période, mais au final on avait un City en difficulté face à West Ham. Pardon, West Ham Sam, qu'on le veuille ou pas, il y a des joueurs, a priori, qui sont quand même moins bons que Marseille. Mais Marseille, même ça,
pas,
ne serait-ce que cette concentration.
Pas tous.
Pas tous, peut-être.
Naïm
Ognol, ne serait-ce que cette concentration ne l'a pas eu.
Assis à votre place, hier, disait et affirmait que West Ham était meilleur que l'OM. Donc,
mais,
on ne peut que lui donner raison quand on a vu
sur début de saison, c'est
une certitude. Moi, j'en veux à Jacques-Henri Hérault, à Nîmes, pour répondre à votre question.
Je parlais de l'entraîneur des joueurs, vous.
Non, mais
plus haut, Dominique, il est ambitieux.
Les puissants. Je dénonce les puissants, vous savez. Non, mais il a pas réussi à vendre. Il s'est entouré d'une nouvelle équipe de recruteurs. Je vois pas du tout les effets.
Monsieur Longoria,
il a pas du tout vendu cet été ni Thauvin, ni Rongier, ni Sanson, ni tous les joueurs bankable, comme on dit dans le jargon.
Surtout une année de Ligue des Champions.
Voilà. Et donc,
Caleta-Car était annoncé à West Ham d'ailleurs.
Il y a pas d'attaquant dans cette équipe. On a prolongé des gens comme Payet, qui est un intermittent. Il a été toute sa carrière et qui
n'a pas joué d'ailleurs. Enfin, très peu hier soir.
Qui est encore plus un intermittent.
Là, il est plutôt intermitteux en ce moment.
Ouais, donc voilà. Donc forcément, quand vous faites des erreurs de gestion sur des effectifs, vous savez pas, il y a pas de ligne conductrice. Forcément, à un moment donné, c'est la Ligue des Champions. Donc, cet effectif-là, pour moi, il est plus faible que celui de Lyon, qui a tenu tête à Manchester City Guardiola il y a quelques mois.
C'est ce qu'on disait hier.
Parce que Aouar, c'est un grand joueur.
Voilà.
Après, il est peut-être
Aouar,
il
même
est aussi intermittent parfois, mais
sans Depay, aller jusque-là, Cornet, c'est meilleur que Radonjic.
Toko Ekambi, c'est meilleur. Lopez, ça peut avoir le niveau
de Zidane. Ils ont éliminé.
Jason Denayer, il n'y a pas ça à l'OM. Donc, voilà.
Un peu plus tôt, on parlait du Paris Saint-Germain avec le leadership voulu par Marquinhos. En tout cas, Tourelle le voit en leader de l'équipe à Marseille qui est leader. Je parle même pas de leader technique, hein, leader en termes d'âme, d'esprit.
Trottmann, Mandanda.
Trottmann.
Un peu Alvaro et Mandanda.
Que ce soit un gardien qui soit le leader, c'est un peu chiant. Quand même. Ce serait mieux que ce soit un joueur de champ. Quand même.
Vous avez votre langage, monsieur.
Oui, c'est un peu agaçant.
Il y avait une image d'ailleurs à propos du côté leader de Mandanda qui était vraiment frappante. C'était l'image des joueurs marseillais avant le coup d'envoi en photo. Le seul joueur qui touchait ses coéquipiers,
qui tenait
ses voisins. Alors c'est vrai que c'est pas dans la distanciation sociale qu'on leur a dit ne vous touchez pas et tout, restez à un mètre. Le seul qu'il faisait, c'était Mandanda, et le seul qui avait ses mains devant lui avec les poings serrés, c'était Alvaro. Les autres, ils avaient les bras croisés dans le dos, comme
bon,
si c'était
un moment,
non, mais c'est peut-être un petit détail, mais c'est révélateur, je pense, d'une attitude un peu défaitiste, et le match m'a pas donné tort.
Mais alors, il faut leur dire, aux amoureux de l'OM qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont finir à 0 points.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser.
La passe décisive.
Quelle production.
Oh là là, quel but.
Marqueront pas un seul point.
C'est fini. Ils ont pas le niveau. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Le foot, c'est.
Alors, on va changer de sujet. Il y a quand même Marseille Olympiakos.
Oui, parce que.
C'est la cinquième journée.
Pour dire un dernier mot. Alors, on peut critiquer tant qu'on veut le match que l'OM a fait hier soir, soit. Mais pour moi, le pire des deux matchs, c'était le premier. C'était à Olympiakos. Parce que là, en faisant davantage, l'OM avait vraiment une équipe à sa portée. Manchester City, même si vous faites un très bon match, il y a quand même des chances que le talent vous prive du moindre point, quoi.
Bon, allez, on va changer de sujet parce que c'est un peu déprimant pour ça, tout ça pour nos supporters, pour les supporters et pour nos auditeurs.
Ils sont nombreux en Afrique,
voilà,
les supporters de l'OM.
Beaucoup supporters de l'OM.
Ils le savent.
On va parler du Real Madrid.
Ah, il y a des supporters aussi en Afrique.
Je sais, c'est pour ça. D'un cheval l'autre. Alors, le Real Madrid, lui, a réussi à limiter les dégâts hier soir. C'était en Allemagne, mené 2-0 pendant une bonne partie du match. Hein. Les Madrilènes ont finalement réagi. Et notamment, je crois qu'on a tous admiré ce but spectaculaire de Karim Benzema, il y avait aussi le retour d'Eden Hazard. Ils ont pu en tout cas rentrer à Madrid avec un point. Alors, est-ce suffisant, Salim Boumgali? Un point, ça fait deux. Enfin, ça fait un seul
puisqu'il y a eu
puisqu'ils ont perdu
initiales.
Sur leur pelouse face au Shakhtar Donetsk. Mm-hmm. Est-ce que c'est suffisant pour le Real, pour ce Real, pour Zidane? Ou alors, remettons ça, comme je le disais tout à l'heure, dans ce contexte ultra bizarre, on va dire, qu'est le football en temps de pandémie.
Non, ce qui est vrai, c'est que le contexte que vous évoquez, d'ailleurs, on le voit à travers le Bayern mis à part. Donc, on met vraiment dans une case
oui,
à part.
Oui, parce que l'Allemagne a eu...
Oui, non, mais et puis surtout, vraiment, le cas Bayern, qui est vraiment dans un cas particulier, qui continue ses performances, malgré une défaite en championnat cette année, c'est en tous les gros noms, que ce soit en France, même le PSG a des difficultés aussi, en Angleterre et on le voit dans les autres pays, tous les gros noms ont des difficultés depuis le début de la saison.
Liverpool a eu du mal contre les Danois de Midtjylland.
Liverpool, City, on l'a évoqué, la Juve aussi en championnat et bien d'autres. Donc j'ai l'impression que le Real est dans le même moule au final avec ses difficultés aussi que l'on connaît, c'est-à-dire une saison qui ne s'est pas vraiment arrêtée et qui se poursuit
et qui commence pas.
C'est très étrange. À côté de ça,
c'est ce que disait Kylian Mbappé récemment dans une interview en disant on a l'impression que la saison n'a pas commencé ou recommencé, on va dire.
Et de l'autre côté, hier quand même, alors certes, il y a eu la victoire lors du Classico, mais hier, Gladbach doit 1000 fois gagner. Gladbach a beaucoup
doublé de Marcus Thuram.
Marcus Thuram a été brillant. Mm-hmm. Raphaël Varane, faudrait presque qu'on se pose un moment donné sur son cas. Parce que...
Ah, c'est ta tête de Turc, hein. Chaque semaine, tu nous en remets une couche.
Pardon, mais alors, certes, Ramos, c'était de retour, mais Raphaël Varane a encore fait du Varane hier. Il y a des faits, à un moment donné.
Il y avait Ramos.
Ah oui, mais heureusement que Ramos était là, celui qui fait la passe D pour Casemiro. Mais enfin, ce Real-là, on évoquait le Bayern qui peut se succéder à lui-même, mais quand on parle du Barça qui a l'air d'être très loin, ben le Real est très loin aujourd'hui. Très très loin du Bayern.
Rongier, c'est très loin de commencer les saisons, Covid ou pas Covid, moyennement, notamment en phase de poule.
En Ligue de Champions.
En phase de poule, je me souviens.
S'il y avait eu défaite, c'était la première fois de l'histoire du Real qu'ils enchaînaient deux défaites en deux journées.
Je me souviens quand ils étaient dans la poule du Paris Saint-Germain, c'était pas top.
Mais après, ça enchaînait.
C'était les dernières. Et puis, ils ont fini deuxième. C'était avec Zidane, c'était pas top. Donc, le Real, c'est un rouleau compresseur. Donc, voilà.
C'est une équipe qui n'a pas recruté. En transition, aussi. C'est une équipe qui vit une phase de transition, puisque on sait que le club n'a pas investi autant qu'il l'aurait voulu, notamment à cause du coronavirus, à cause des travaux du stade pour lequel le club a contracté un gros emprunt qu'il faudra rembourser. Donc Zidane, il n'a pas vraiment exactement les effectifs dont il rêve. Hasard, il vient à peine de revenir.
Il n'a pas l'effectif dont il rêve, mais n'empêche qu'il a un vestiaire qui, on a l'impression, voilà, qu'il le tient, qui joue pour lui pratiquement.
Ouais, les joueurs ont montré qu'ils ne lâchaient pas leur entraîneur.
Et que quand ils sentent qu'il est en danger, ils sont là.
Et puis, il y a
quand même un talent. Parce qu'on savait qu'il y avait ces deux matchs un peu couperés pour Zidane.
Il y a un point positif aussi sur les derniers matchs, c'est le regain de forme, le retour à un très bon niveau de Luka Modric, ce qui est pas anodin quand même pour cette équipe au milieu. Toni Kroos, ça reste un sacré régulateur, donc tout n'est pas perdu pour le Real, mais c'est, à mon avis, on va avoir une saison avec des hauts et des bas parce que l'effectif reste un peu trop vieillissant,
C'est l'orgueil de ces gens-là, hein. Ça marche un peu comme ça, c'est-à-dire que Ramos, il a pas envie de décliner, Casemiro, il a pas envie de décliner, Modric, effectivement, Patrick l'a dit, on l'a vu avec la Croatie, notamment contre
Benzema
la France, il a trouvé, voilà. Après, Karim Benzema, lui, on cherche le déclin.
Il est constant,
il a jamais décliné, même si c'est le mieux.
Il est un peu plus jeune que ceux qu'on a cités avant.
Salim, Eden Hazard, son retour, vous l'avez trouvé comment?
Pour un retour, j'ai envie de dire, c'était plutôt positif. Il a essayé quand même d'impulser autre chose, et c'est vrai
qu'en
seconde période,
assez actif, voilà,
il a été, comme l'ensemble du Real, beaucoup plus intéressant, évidemment, avec ses deux buts marqués. Après, ça ne reste qu'un début. Laissons-lui déjà jouer, laissons-le faire en sorte qu'il ne se blesse pas, qu'il a eu un début de saison, et même une saison dernière qui a été chaotique à ce niveau-là. Donc, qu'il ne se blesse pas, qu'il poursuive, et après, on verra ça dans une dizaine de matchs.
Zidane
Plus que jamais, cette victoire dans le Classico, et puis ce match nul. Voilà, il avait deux matchs, sinon il sautait, mais il est là.
C'est quoi, Dominique? C'est la baraka pour Zidane ou c'est un savoir-faire?
Quand on gagne trois Ligues des Champions de suite, qu'on gagne le titre en Espagne, ça peut plus être le hasard, ça peut pas être juste la chance. Donc il y a forcément une part de réussite, mais il y a forcément un travail, et on sait qu'il a un staff très très proche de lui, avec qui il bosse énormément, on sait qu'il a sa confiance à Benzema, elle finit par payer, voilà, il a fait des choix. Non, c'est un vrai bosseur, c'est un vrai travailleur, c'est actuellement, avec Didier Deschamps, le meilleur entraîneur français sur la scène mondiale.
Patrick, c'était même surprenant cette nouvelle, il y a une semaine, il avait deux matchs, un classico qu'il a jamais perdu, et ensuite le match des...
Ça.
Oui, est-ce que d'ailleurs c'était vraiment sa direction, ou peut-être la presse qui en faisait un peu trop?
C'était peut-être une fraction des dirigeants, mais sans doute pas, il n'y avait sûrement pas une volonté unanime pour virer Zidane après cet ultimatum, mais c'est peut-être aussi des messages qu'on fait passer dans la presse pour aiguillonner le coach.
Oui.
Il n'y a peut-être pas une vraie volonté de le virer à tout prix, même si jamais il n'avait pas réussi la mission sur ces deux matchs, mais... Le crédit qu'il a me semble quand même supérieur à deux matchs ratés en début de saison.
En tout cas, vous avez comme ça.
On a vu Ancelotti prendre la porte pour moins que ça.
Oui, mais c'était le Bayern. Oh. Il n'était pas vraiment chez
nous. Non, au PSG.
Au Real.
Ah, au Real.
Au Real, pardon.
En tout cas, vous arrivez avec ces messages subliminaux ou pas à piquer un petit peu l'orgueil. Ça a été évoqué des joueurs. Et ces joueurs ont montré qu'ils étaient toujours présents, que ce soit face au Classico, face à un Barça moindre, certes. Et hier, en étant mené 2-0, vous marquez deux buts dans les 5 dernières minutes. Ça prouve et ça démontre quelque chose.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans cette émission de Radio Foot International aujourd'hui. Et donc, rendez-vous avec Patrick Juillard, avec Eric Mamrut, avec Martin Guez et Thomas de Saint-Léger tout à l'heure pour les matchs.